Athènes, Dominique, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenues. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital et la rationalité économique de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Grégores. Chaque semaine, sur l'Écho des Grecs de Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Vous pouvez aussi avoir cette émission sur les sites de l'OC Libertaire et puis aussi sur le site du Chat Noir 51. Bonsoir, eh bien, je crois qu'une grande partie de cette émission sera consacrée au centre de rétention. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas, il y a eu un procès en appel de ce qui s'était passé à Vincennes en 2008 avec l'incendie du CRA, centre de rétention administrative donc de Vincennes, qui avait cramé en 2008. En première instance, il y avait eu un procès qui avait été complètement inique, où il y avait eu tout de même 10 personnes de condamnées, de 8 mois à 3 ans de prison ferme, sans aucune preuve en fait, et puis là ils avaient fait appel, 6 d'entre eux avaient fait appel, ils sont passés de début octobre et le procès s'est terminé le 4 novembre, ça avait lieu que 2 après-midi par semaine, on attend toujours le résultat du procès, néanmoins, eh bien, on a du son à vous proposer, donc de gens qui ont suivi toute cette affaire depuis le début.
Il y a le collectif de solidarité avec les inculpés pour l'incendie du centre de rétention de Vincennes qui sont présents aussi avec nous ce soir.
Bonjour.
Bonsoir.
Voilà, on va commencer peut-être avec le collectif par parler déjà de ce qui s'est passé un peu avant juin 2008, un peu avant cette révolte qui a détruit presque complètement le centre de rétention de Vincennes, qui entre-temps a été reconstruit, on y reviendra. En tout cas, peut-être que je vous laisse commencer par là.
Ouais, donc en fait, le centre de rétention a été détruit le 22 juin 2008. Alors ça faisait suite en fait à 6 mois de révolte à peu près continue à l'intérieur du centre de rétention et à des mobilisations à l'extérieur essayant d'appuyer leurs revendications en leur montrant la solidarité à l'extérieur. Ça avait commencé au mois de en décembre 2007 au Ménil-Amelot et ça s'était ensuite poursuivi donc par à-coups au centre de rétention de Vincennes. En juin 2008, donc on en est à peu près à 6 mois de révolte continuelle et arrive Monsieur Souli au centre de rétention d'abord où il va mourir faute de soins. On le retrouvera bleu dans sa cellule. C'est ses co-détenus qui le découvriront comme ça. Ce qui va déclencher en fait une première révolte le soir même avec des départs de feu. Puis le lendemain en fait, ses co-détenus vont essayer d'organiser une marche silencieuse en hommage en fait à ce monsieur tunisien et qui va être réprimé par les policiers présents sur place avec aussi ceux qu'ils feront venir pour la réprimer. Et là-dessus, il y a des départs de feu qui vont pas simplement détruire une partie des 2 centres de rétention, mais entièrement les 2 centres et vont le rendre totalement inutilisable pendant 4 mois. Et 4 mois d'un centre de rétention comme Vincennes, c'est 240 places en moins pendant ces 4 mois, il réouvrira en novembre. Ça fait donc des expulsions en moins, et c'est vrai que sur l'été 2008, en tout cas en région parisienne, ça s'est senti, quoi. Et justement, comme ça s'est senti, l'État peut pas laisser passer ça. Et donc il va prendre 11 personnes en fait au départ, au hasard, pour faire payer à la fois le centre de rétention de manière tout à fait financière, parce que ça a un coût, et les faire payer, les punir de s'être révoltés pour leur liberté et pour faire peur aux autres. Alors ça va pas du tout marcher dans le sens où, mais on y reviendra plus tard, après juin 2008 à Vincennes, il y a eu plusieurs centres de rétention qui ont brûlé, que ce soit en France ou en Europe et même dans le monde. Mais pour ce qui concerne le procès, en fait, il va y avoir 11 inculpés. Alors il y en aura 6 en tout qui vont être incarcérés. Ils vont faire entre 6 mois et 1 an de préventive.
Dont un Slaydin qui a été mis en prison à Fresnes et qui là a été, on ne sait pas parce qu'on n'était pas présent, en tout cas il est sorti de là dans le coma, il a fait un coma qui a duré pendant 4 mois et à l'heure actuelle il est toujours paralysé. Nous quand on l'a rencontré à l'hôpital, il avait même perdu l'usage de la parole et tout ça. Donc voilà. Et on peut dire qu'on sait qu'à l'heure actuelle, à Fresnes, visiblement, les choses n'ont pas beaucoup évolué.
En tout cas, on peut dire que pour Slaydin, du coup, lui, il passera plus en procès parce que l'État et les juges n'avaient pas envie de voir arriver une personne qui, de leur fait, était sur un petit chariot roulant. Et à Fresnes, on sait que cet été, il y a un jeune Tunisien, comme Slaydin, qui était Tunisien aussi, enfin qui est Tunisien, qui, le premier jour de son incarcération, a brûlé dans sa cellule et son codétenu est mort. Et celui qui a brûlé, là, qui n'est pas mort, il est dans le coma en ce moment. Et c'était aussi pour une histoire de papier encore. C'était aussi des gens qui se retrouvaient là pour des histoires de papier. Ce qui ne veut pas dire que les autres mériteraient de brûler, hein, pas du tout, mais voilà.
Mais voilà jusqu'où ça va.
Pour repartir sur le procès. Le procès en fait se tient en janvier 2010, donc les 25, 26 et 27 janvier 2010. Et en fait l'instruction qui aura évacué Slaydin du procès. Donc on se retrouve avec 10 inculpés, dont un qui est encore en détention provisoire. En fait, il s'était fait arrêter en juin 2009, au moment où l'instruction venait de se clore, et donc ça avait fait rouvrir l'instruction, et au moment où une demande de remise en liberté avait été formulée pour lui, l'instruction là se clôt immédiatement, et on est parti sur le procès pour avoir au moins une des personnes inculpées de l'incendie du centre de rétention de Vincennes a présenté menotté devant le juge, donc ça fait mieux pour la justice, quoi. Ça le présente déjà comme étant coupable, quoi.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, il y en a la plupart, ils ont été arrêtés très vite après l'incendie. Après l'incendie, en fait, les flics ont donné. Il y avait eu 2 personnes qui avaient tout de suite été arrêtées, qui elles ont été relâchées. En tout cas, pour les deux, très vite, les flics ont donc donné des noms de gens. C'était des gens qui s'étaient fait remarquer dans le centre de rétention parce que, on va dire qu'ils réclamaient des choses. Par exemple, des gens qui s'étaient solidarisés avec Monsieur Souli avant qu'il décède pour exiger qu'il ait ses médicaments. Des gens qui gueulaient contre leur situation. Donc, les flics vont donner ces noms-là et en même temps, ils vont commencer à entreprendre de visionner toutes les bandes vidéo et d'essayer de les corréler avec ce qu'avaient dit les flics. C'était très dur de voir sur les bandes vidéo, mais très vite, ils ont vu qu'ils pouvaient prendre des trucs comme c'était une émeute collective. Évidemment, tout le monde participe. Donc, ils ont extrait quelques personnes de ça. Et après, ils sont allés soit les chercher dans les centres de rétention où ils avaient été transférés après l'incendie, soit ils ont mis en place des procédés tels que la géolocalisation des portables pour pouvoir les arrêter. Donc en fait, on va dire que tout au long du mois de juillet, il y a plusieurs personnes, plusieurs sans-papiers, qui ont été arrêtés pour l'incendie du centre de rétention de Vincennes et qui ont été placés tout de suite en détention. Donc là, on est en juillet 2008. Parmi ceux-là, qui s'étaient fait arrêter en juillet 2008, le dernier sortira en juin 2009. Donc il aura fait, puisqu'on compte aussi la rétention, il aura fait un an de prison préventive. Et celui qu'ils arrivent à présenter menotté, qu'ils arrivent à présenter toujours incarcéré au procès, lui est arrêté un an après dans une rafle. Dans une rafle à Barbès comme il y en a tous les jours, et lui il sait même pas qu'il est recherché, les flics lui demandent son nom, il donne son nom, et là ça fait tilt, recherché pour l'incendie du centre de rétention de Vincennes, et il est incarcéré.
On va peut-être revenir justement sur le premier procès qui a eu du coup en janvier 2010, t'avais donné les dates.
Parodie du procès, tu voulais dire.
Voilà, donc justement, si on peut revenir sur cette justice à l'œuvre sur ce procès-là.
En fait, c'est une suite de problèmes ce procès. Le premier jour, en fait, dès le premier jour, un des inculpés, en fait, va reconnaître dans la juge de la 16e chambre dans laquelle l'incendie du centre de rétention avait lieu, la juge d'instruction, en fait, avec qui il avait déjà eu un passif sévère, et donc son avocate va demander sur une autre histoire. Et son avocate va demander à ce que cette juge se dessaisisse. Donc immédiatement, la première journée, en fait, c'est juste ce quart d'heure-là ou c'est cette demi-heure-là. Et donc on passe immédiatement au second jour. Le second jour, la juge refuse, en fait, de se dessaisir. Donc dit bon, bah, on va continuer comme ça. Là, à ce moment-là, les avocats disent bah non, on va pas continuer comme ça, et donc c'est fini pour le deuxième jour. Et le troisième jour, en fait, la justice va essayer de passer en force en demandant de plaider.
Elle va passer en force.
Les avocats vont devoir plaider. Alors l'objectif de cette journée-là, de ces trois jours-là maintenant, était surtout de sortir le dernier inculpé qui était en prison. Donc ça va être fait. Et sur les demandes d'actes supplémentaires que demandait la défense pour assurer la défense effective de leurs clients, ouais.
Parce que par exemple, toute la chose tient sur des vidéos, et les avocats avaient même pas eu ces vidéos en main. Voilà, donc des choses comme ça, par exemple.
Et donc au final, à 22h le mercredi soir, la juge va décider de dire bon, bah, finalement, ok, vous voulez les vidéos, et ben on va aller voir les vidéos, mais on va les voir en audience, et on vous laisse pas le choix. De toute façon, ça commence lundi, c'est 3 jours par semaine et c'est pendant 3 semaines.
Voilà, elle a même imposé aux avocats des horaires, alors que les avocats ont malheureusement beaucoup d'affaires. Ils ont un petit planning, hélas.
Et donc, à partir de là, le procès va se dérouler sans avocat.
Oui, les avocats ont quitté de façon volontaire et l'ont signifié, ils quittaient ce procès-là.
Pour ne pas être complices de cette justice qui était là de toute façon pour les condamner. Donc au final, après ce marathon d'audience, on va aboutir à des condamnations qui vont aller de 8 mois à 3 ans de prison ferme pour chacun des inculpés.
Je veux juste rajouter une petite chose. Toute la procédure a été instruite à charge, à tel point que même quand... il aurait quand même pu y avoir une expertise des locaux, etc., voir un peu si réellement ils étaient si ignifugés que ça et tout ça. Non, tout ça, ça avait même pas été fait. La seule chose qu'ils ont cherché dans cette instruction, c'est à charger les gens. Il n'y a pas d'enquête non plus sur comment est-ce que décédé ce monsieur Salem Souli. Je veux dire, il y a une corrélation et eux, ils ne cherchent pas à approfondir les choses. Donc tout est mis vraiment à charge. Voilà.
En fait, l'objectif de ce procès-là pour l'État était tout simplement de punir et faire peur, et c'est ce qu'il a essayé de faire, et c'est ce qu'on voit aussi à travers les peines qu'il a infligées, sur lesquelles les avocats ont fait appel, et c'est donc maintenant que l'appel va débuter, en fait, jeudi.
Tous les jeudis et vendredis, voilà, du mois d'octobre, et ça commence jeudi 6 dans 2 jours. Donc.
Back, glad to know y'all. Girl, since you want a vibe, we ain't you go, dog. That's phenomenon.
Revient donc avec le collectif de solidarité avec les inculpés de l'incendie du centre de rétention de Vincennes. Donc on était en train de parler de tout le déroulement du procès en janvier 2010. Je voulais aussi vous rappeler qu'il y avait un bouquin qui était sorti qui s'appelle Feu au centre de rétention, voilà, aux éditions Libertalia, que vous pouvez trouver sûrement dans pas mal de librairies et de kiosques, d'infokiosques et de kiosques alternatifs sur Paris. Donc Feu au centre de rétention, c'est un recueil de témoignages compilés donc de janvier à juin 2008, donc justement jusqu'à cet incendie, à cette révolte, qui démontre aussi par les témoignages des premiers concernés un peu toutes les luttes et toutes les solidarités qui ont eu à l'intérieur.
Les bonnes raisons d'avoir vu ce centre partir en fumée, quoi.
Exactement. Et donc il faut dire aussi que ce bouquin, tous les fonds qui ont été engrangés grâce à ce bouquin, ils ont été reversés soit pour payer les avocats de la défense, soit en tant que mandat quand certains retenus étaient emprisonnés donc à Fresnes ou à Fleury. Et donc il y avait quand même une solidarité qui s'est exercée avec ces gens qui étaient inculpés et qui avaient été pris comme bouc émissaire. Justement, on peut peut-être en dire un mot là-dessus.
Toute la solidarité qui s'est exprimée en fait entre juin 2008 et puis le passage en procès des inculpés.
Exactement.
Oui, bah il y a eu d'abord des choses vraiment de base, comme retrouver les gens, leur écrire, aller les voir, leur envoyer de l'argent en tôle, parce qu'effectivement en tôle, si on veut pouvoir manger correctement, et ben il faut cantiner, il faut s'acheter des trucs en plus. Ça a été après aller chercher les gens quand ils arrivaient à sortir de tôle, trouver des avocats qui acceptent de faire des demandes de remise en liberté et puis après qui acceptent de les défendre au procès. Donc il y a eu tout cet aspect-là. Et puis il y a eu aussi tout l'aspect continuer la lutte contre les centres de rétention et contre les lois contre l'immigration en général. Donc par exemple, au moment du procès, il y a eu des tas d'actions qui ont été menées dans plein d'endroits en France.
Ouais, aussi à l'étranger, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Hollande.
Oui, des tas d'actions différentes. En fait, il y a des tas de gens qui se sont emparés du procès pour faire savoir à leur façon, à eux, chacun à sa façon, la solidarité avec les inculpés, tout en continuant une offensive contre les centres de rétention, contre les rafles et toutes ces choses-là. Et toutes ces choses, bah, c'est important qu'elles continuent, parce que par rapport en fait à 2008 et même à 2010, l'époque du procès, et bah, les rafles, ça continue, ça s'accentue même. Les centres de rétention, il y en a toujours des nouveaux qui sont construits. Il y a eu un nouveau centre de rétention qui a ouvert au Ménilamlot là en août 2011 de cette année, qui va pouvoir enfermer 240 personnes.
Le contrôle aux frontières se durcit. On a des centaines de morts, des milliers de morts en mer Méditerranée.
La durée de rétention, par exemple, qui était de 32 jours, elle est passée à 45 jours. Ici en France, qui génère d'ailleurs, il y avait les révoltes, elles s'arrêtent jamais. Mais on va dire que depuis cet été, par exemple, dans plein de centres de rétention, il y a des révoltes. Il y a le centre de rétention de Lyon qui a brûlé au mois de juillet. Au Ménilamlot, à côté de Paris, celui dont je parlais tout à l'heure, il y a les retenus qui, par exemple, dimanche, ils sont séparés par des grillages dans des modules, ils ont voulu manifester ensemble, ils se sont fait gazer par les flics, ils ont sorti une pétition il y a 15 jours. À Toulouse, il y a aussi des sans-papiers qui se sont affrontés aux flics, qui molestaient un gars qui devait être expulsé, qui résistait à son expulsion. À Plaisir, il y a une grève de la faim qui a commencé. À Vincennes, alors ça c'est un peu plus joyeux parce qu'il y a des gens qui ont réussi à s'évader. Ils ont vraiment réussi, on espère que pour eux ça va durer. Mais ça veut dire aussi des affrontements avec les flics. Donc toutes les raisons de se révolter à l'intérieur, elles continuent, et à l'extérieur aussi, parce que Parce que voilà, parce on n'accepte pas de vivre là-dedans.
Par exemple, il y a aussi à Bobigny, il y a eu deux personnes qui ont fait une tentative de suicide il n'y a pas très longtemps, ils sont tunisiens. Le juge les maintient en rétention alors qu'on sait qu'on ne peut pas en ce moment, parce que le consulat ne délivre pas de visa, expulser les Tunisiens. Et malgré tout, le juge continue à les maintenir. C'est deux gamins de 18 ans qui étaient là, enfin voilà.
On va justement peut-être faire un petit retour là sur le procès. Maintenant, dire qu'il y a voilà, ces séances le jeudi et le vendredi.
Cour d'appel, pôle 2, chambre 9. Mais enfin, il y aura des gens dans le tribunal qui indiqueront où c'est. Et donc, ce sera tous les jeudis et les vendredis à partir de 13h30. Aller au procès, c'est aussi une façon de montrer sa solidarité et puis aussi de se connaître tous mieux ensemble pour pouvoir continuer à organiser des choses, quoi, continuer à faire des choses contre ça.
D'abord, la solitude pour seule compagne et les nuages gris pour poteau, la hargne, nom de la haine plutôt, pour cette chienne de vie qu'il a mis dans le caniveau, avec pour stigmate des sillons prononcés sur la peau, des couleurs usées, les larmes reviennent, les souvenirs s'enchaînent, et il revoit son départ en bateau, et au revoir, les pleurs de la famille, les projets de travail, et les promesses de revenir. Vouloir construire son avenir en pays inconnu, alors au bout de la canne, visible que lorsque c'est foutu. Au fond des yeux et du cœur, l'amour pour les siens, obligé de partir pour qu'il y ait un lendemain. Les mains chargées, il quitte sa terre, des sentiments partagés sur les flots, il espère. Le sucre et le miel du paradis se trouvent-ils là-bas?
Là-bas,
il ne sait pas, il verra bien. En tout cas, le recul n'est plus possible. La capitale lui tend déjà les bras pour un coup sur un. Les yeux éblouis par les images de la ville, il voit déjà sa vie comme une étoile qui brille. Le déclin n'est pas de mise pour lui. On ne peut que réussir dans ce putain de pays. Des mensonges digérés comme des vérités. Le temps maintenant lui a prouvé que tout n'est pas gagné. Le bonheur du départ, le malheur de l'arrivée. Des espoirs plein la tête, des coups de bâton à récolter. Il s'est vu réussir mais y'a rien, à part des callosités au creux des mains. Le mensonge n'est pas ailleurs mais ici, leur promesse tombe à l'eau. Le mensonge n'est pas ailleurs mais ici, leur promesse tombe à l'eau. Mais à bout de tampon sur l'épaule, bon pour le travail, prends ton casque et ton bleu et retrouve la file d'attente. Tu sais lire? Non, c'est pas grave, pas besoin de savoir pour marcher sur les charpentes. La gueule glaciale le ramène sur le sol. L'étoile s'est transformée en astre mort, bienvenue en métropole. Personne ne rigole, des visages tirés se scrutent de haut en bas sans parler. L'avenir dégringole et marque les désillusions. Où se trouve le bonheur promis, loin de ce béton? Le ruisseau charrie ses rêves, ses espoirs. La France n'est pas le beau pays qu'il croyait. Il a appris trop tard, lui tout ce qu'il voyait, c'était qu'une invitation, quelle qu'elle soit, est bonne à croire. La raison, il la connaît, et tout autre. La main d'œuvre est bon marché, elle est payée au lance-pierre. Tu foutes, t'es viré, débrouille-toi, afin de verser de l'argent au bled pour tes frères. Maintenant, il donnerait tout pour revenir en arrière. Une minute suffirait pour changer de chemin. Peut-être serait-il devenu un père exemplaire, avec une famille, des enfants pour diamants dans un écrin. Une famille, des enfants pour diamants dans un écrin. Le bonheur du départ, le malheur de l'arrivée. Des espoirs plein la tête, des coups de bâton à récolter. Il s'est vu réussir mais y'a rien, à part des callosités au creux des mains. Le mensonge n'est pas ailleurs mais ici, leur promesse tombe à l'eau. Le mensonge n'est pas ailleurs mais ici, leur promesse tombe à l'eau. Ces coups de pluie, le tir de sa torpeur. Priorité pour l'heure, trouver un endroit pour dormir. La rage, il n'en a plus, trop vieux pour ça. Laminé par le temps, il se laisse pourrir sur le tas. Voilà ce qu'il récolte d'une vie de labeur. Arriver ici non pour vivre, mais servir les bons parleurs. Plus d'énergie pour être dégoûté. Leurs mensonges ont tué son espoir à tout jamais. Le bonheur du départ, le malheur de l'arrivée. Des espoirs plein la tête, des coups de bâton à récolter. Il s'est vu réussir, mais y'a rien, à part des calomnies au creux des mains. Le mensonge n'est pas ailleurs mais ici, leur promesse tombe à l'eau. Le mensonge n'est pas ailleurs mais ici.
De retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, de 19h à 20h30. Je vous redonne notre adresse mail, justement, si vous avez tout ce qui est témoignage, hein, information, contre-information même, analyse, texte, communiqué, c'est au fond près du radiateur, @no-log.org. Voilà, et puis on revient justement avec le collectif pour continuer de parler un peu, on va dire large, de la machine à expulser. et de ce qui se passe surtout dans les centres de rétention.
Comme tout à l'heure, on a commencé à l'évoquer, en fait, dans les centres de rétention, la mobilisation, elle ne faiblit pas. Il y a sans arrêt des mobilisations. Le problème, c'est que souvent, on ne le sait pas. Et parce que la parole de l'intérieur et ce qui se passe à l'intérieur, bah, ça a beaucoup de mal à filtrer dehors. Et à ce propos, il faut savoir que dans les centres de rétention, qui selon l'État ne sont pas des prisons, il est toujours possible de téléphoner aux retenus, aux prisonniers. Donc, mais les retenus, c'est comme ça que l'État les appelle. Et il y a des cabines téléphoniques. Et quand vous téléphonez sur les cabines téléphoniques, il y a toujours quelqu'un qui répond. Et bon, bah, ils sont tout le temps contents d'avoir des contacts avec les gens à l'extérieur. Et puis, bah, ça permet de savoir ce qui s'y passe. Alors, il y a pour avoir les numéros des cabines, faut aller sur le site de RESF. Le site Réseau Éducation Sans Frontières, et il y a un endroit où il y a tous les numéros des cabines, des centres de rétention, des 24 ou 25 centres de rétention qu'il y a en France. Et ça, c'est toujours intéressant, et ça fait sentir aussi à ceux qui sont dedans
que tout le monde n'est pas en accord avec ce qui leur arrive et avec la politique menée par ce putain de gouvernement.
Donc on a pu le voir encore que plus ce système-là s'étend, plus la révolte aussi elle va s'étendre d'un autre côté, parce que les conditions ne peuvent plus être comme ça, enfin le système ne peut plus se faire comme ça. Ça s'est passé aussi dans beaucoup d'autres lieux en France, en Europe ces derniers temps, il y a eu pas mal de révoltes.
Oui, en particulier il y a eu le centre de rétention du Canet à Marseille qui a brûlé et qui a été mis hors service pendant deux
hors
mois,
d'état de nuire.
Hors d'état de nuire pendant deux mois, au mois de mars. D'ailleurs, il y a quatre personnes qui sont inculpées de cet incendie. Donc, je sais pas si on a les dates du procès.
Je crois qu'il n'y a pas de date.
Il n'y a pas encore de date. Il y a eu aussi, après Vincennes, le centre de Bordeaux qui a été incendié. Là encore, l'État a cherché et donc a trouvé des coupables. Et ce sont deux personnes qui ont pris 3 et 5 ans de prison ferme. Il y a eu aussi à Toulouse, je crois, un incendie du centre de rétention et des personnes aussi qui ont été inculpées. Donc ça arrive de manière régulière. En tout cas, il y a un mouvement de révolte continuel dans les centres de rétention dont justement on n'est pas forcément au courant, qu'il faut arriver justement à faire sortir de leur en téléphonant et par exemple
des
visites, que ce soit des visites collectives ou que ce soit des visites individuelles. En tout cas, l'important est à l'heure actuelle, de montrer en fait l'existence de ces centres de rétention et de diffuser le besoin de leur inexistence, quoi. Le fait que ces lieux-là, plus on les éclairera et plus on montrera qu'il faut les détruire, que ce soit en France ou en Europe ou à travers le monde. Et c'est une manière de s'opposer à cette politique mortifère, hein, vu qu'elle est génératrice de mort, quoi, aux frontières. Dans les centres de rétention.
De toute façon, c'est l'enfermement qui est à combattre, point. On n'a pas le droit d'enfermer une personne, c'est tout. Pour quoi que ce soit, les prisons, les centres de rétention, tout ça, ça doit partir, disparaître. Ou alors, on veut rester des barbares. Mais ça n'est pas une preuve de civilisation. Alors, on se vante et on veut exporter ça, toutes nos belles idées démocratiques, etc. Mais je suis désolé, tant que la prison existera, le système ne sera pas acceptable.
Et c'est donc une des manières, en fait, en les éclairant et en faisant sortir... Enfin, c'est une des choses, en tout cas, que permet encore... si on veut la rétention justement par rapport à la prison, c'est de pouvoir faire sortir de manière plus libre, quoi, de manière plus facile cette parole de personnes enfermées et de montrer qu'il y a des personnes solidaires avec eux et que donc voilà.
Et aussi voir comment c'est une hypocrisie et il marche bien vraiment avec ce système-là, ces centres de rétention, et que ce soit les prisons ou les lieux d'enfermement en règle générale, qui sont source de rentabilité énorme aussi pour l'État qui les met en place. Mais c'est quand même bien aussi de le montrer, c'est que tout un tas d'entreprises se font énormément de bénéfices sur le dos de l'enfermement des
d'accord.
gens. On peut en citer quelques-unes, voilà, justement, quand on est dans ce sujet-là, on peut citer Sodexo,
le constructeur.
D'ailleurs, en règle générale, sur la prison et sur tout ce qui touche à l'expulsion des sans-papiers, il y a des tas d'entreprises qui, à tous les niveaux, se font plein d'argent. Par exemple, les entreprises de transport, comme Air France, qui est l'un des premiers expulseurs en France et que l'État rémunère tout à fait grassement pour ça.
Pour affréter les avions.
Tous les petits magasins là, qui fabriquent de la vidéo, de l'électronique, tout ça, pour Frontex, ça aussi, ça génère de la thune, tout ça. Caméras, tout ça, c'est sûr que ça...
Frontex aussi, faut le dire aussi, c'est l'agence européenne donc de protection des frontières, hein, une agence avec des agents armés.
C'est un des rares trucs dont les budgets ne baissent jamais d'ailleurs.
Hein, voir qu'il augmente d'ailleurs.
Au contraire, il augmente. Oui.
Donc voilà, c'est ça aussi, c'est que la lutte de l'intérieur des centres de rétention, elle se résume aussi à la réalité de l'enfermement, mais la lutte à l'extérieur, elle est aussi à tous ces niveaux-là.
Y compris d'ailleurs en dénonçant les associations que ce soit en France, en Italie ou ailleurs, participent activement à cet enfermement et aux expulsions, donnant une expulsion morale, comme la Croix-Rouge par exemple, y compris en Espagne où il y a eu des accords en fait entre la Croix-Rouge et le gouvernement espagnol pour ramasser toutes les personnes sous couvert
de les aider après leur traversée
de la Méditerranée dans des conditions particulièrement difficiles, s'empresse en fait de les rapatrier dans leur pays. En fait, c'est simplement pointer et éclairer quand on parle de, que ce soit faire sortir des témoignages ou dénoncer ces entreprises, ces associations et ces personnes-là, qui agissent concrètement pour les expulsions, c'est essayer justement de changer ce système-là.
Juste un petit truc par rapport à la Croix-Rouge, il y a un petit bouquin là qui est pas mal, ça s'appelle Bienvenue en France. C'est un peu éclairant sur le rôle de ces associations humanitaires qui servent de caution pour enfermer d'autres gens. C'est Anne de Loisy, l'auteur.
Et en fait, il y a plein de façons de faire en sorte de lutter contre ça, parce que tout à l'heure, tout ce dont on parle, en fait, tout va en s'aggravant. Quand on parlait, par exemple, de l'allongement de la rétention, tout ça, ça va aussi avec la multiplication des rafles, une pression qui est vraiment accrue sur les étrangers, quoi. Les étrangers qui sont désignés comme des ennemis avec d'autres catégories de population. De toute façon, l'État a intérêt à diviser et à désigner des catégories. En ce moment, les étrangers font partie. Ils sont particulièrement sous pression. Et c'est pas seulement par bienfaisance qu'il faut se solidariser avec eux, c'est parce que réellement on veut pas vivre dans ce monde-là. C'est ce monde-là qu'on veut pas. On veut pas que nos voisins soient arrêtés parce qu'ils ont pas de papier. On voudrait bien que plus personne n'ait de papier du tout, parce que pour vivre dans le monde, il y en a pas besoin. Et il y a des tas de façons d'essayer d'empêcher ça. Rien que par exemple dans la rue, quand on voit des contrôles aux faciès, quand on voit des rafles, essayer de s'y opposer, d'aider les gens, de prévenir.
Au moins de rester présent et de regarder comment les choses se passent, parce que parfois ça peut...
Oui, bien sûr.
Voilà, au moins ça.
Et en tout cas de manière la plus collective possible, parce qu'un individu...
Juste ouvrons les yeux, soyons solidaires. Il ne faut pas non plus négliger dans tout ça, et souvent on le fait, le rôle des juges, parce que eux ils savent, et il faut voir la vitesse pour étudier un dossier, en moyenne c'est 2 à 3 minutes. Voilà. Et de tout ça va dépendre une vie entière. Et ça se passe tous les jours. C'est vraiment l'abattage. Ils savent les conditions de rétention. Ils voient des gens arriver avec des bandages. En tout cas, s'ils ne le voient pas, moi qui assiste de temps en temps à des audiences, je vois des gens qui arrivent avec des bandages, qui parlent de ce qu'est leur réalité quotidienne. Bon, donc ils sont sans doute plus à même encore que nous. Et ce qui est surprenant, c'est que je sais pas, ils sont autistes ou ils sont dénués de tout sens humain, je sais pas. Enfin bref, ils ont une grosse responsabilité là-dedans.
Et justement, c'est aussi une bonne école d'aller voir comment fonctionne cette justice dans les JLD de 35 bis ou dans les cours d'appel. Les audiences sont publiques. Comme on disait à l'instant, c'est tous les jours que ça se passe, y compris samedi. Donc il n'y a pas de problème. Il faut justement, au contraire, même le dimanche, continuer à aller voir comment la justice se fait et se rend. C'est d'autant plus intéressant.
Bah, c'est la justice qui permet d'enfermer des gens. c'est qui permet d'enfermer les gens avec une caution démocratique. C'est bien ça le problème, quoi. C'est ça qu'on appelle justice.
Et à ce sujet-là, d'ailleurs, il y a une brochure qui est sortie il y a pas très longtemps qui démontre bien justement tout ce système-là, qui s'appelle Bonjour 15 jours, concernant justement tout système de la rétention, qui est très instructive à ce sujet-là et au niveau du fonctionnement des chambres de juges de liberté des détentions. On peut la télécharger, la trouver sur internet, il me semble, infokiosque.net. Voilà, donc à partir du 6 octobre, tous les jeudis et vendredis du mois d'octobre, à partir de 13h30, au TGI de Paris, Métro Cité, Pôle 2, Chambre 9. Voilà, bah écoutez, on vous remercie beaucoup d'être venu nous informer de tout ça.
Merci à vous.
Le procès a eu lieu, donc, il s'est terminé le 4 novembre. Le procureur a requis la confirmation des peines de première instance, de 8 mois à 3 ans ferme. Il a salué, bien évidemment, le sang-froid absolu des policiers qui ont très bien fait leur travail et qui ont permis qu'il n'y ait aucun blessé. Bien évidemment, la justice n'est pas du tout revenue sur la mort de ce Tunisien Salem Souli. Absolument, on n'a absolument pas parlé, ne parle absolument pas, bien sûr, des conditions de rétention. D'ailleurs, il est significatif que, ce qu'a dit le procureur, il cite à la fin une phrase assez significative, mais quelle mouche les a piqués ce jour-là ? Il bénéficie pourtant d'une certaine liberté. Eh oui, la liberté, si c'est un lieu d'enfermement, un CRAS, c'est vraiment un centre de rétention administrative, c'est vraiment un endroit où les gens sont enfermés. Alors, comme le dit le reportage de tout à l'heure, il y a effectivement une possibilité de communication téléphonique avec ce centre, puisqu'on peut avoir le numéro sur Internet sans problème, sur le site de RSF, le numéro de téléphone des cabines qui sont installées à l'intérieur du centre de rétention, mais la personne est enfermée de toute façon. Quant aux visites, on peut effectivement essayer de visiter quelqu'un. Il faut absolument connaître son identité. Et en plus, faut le savoir, on est fiché comme c'est pas permis.
Et ça dure 20 minutes maximum.
Et ça dure 20 minutes maximum, tout à fait. Oui. Donc vous voyez, je crois que tous ceux qui nous écoutent savent un petit peu que ces centres de rétention sont... Alors, on y reviendra sur ce procès, puisque le résultat n'est pas connu, évidemment. Ça va mettre un certain temps. Je ne sais même pas si on connaît la date exacte là où seront connues les peines. Et je crois d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'interviewer une personne qui a assisté au procès et qui donc pourra revenir un petit peu sur le déroulement de ce procès et sur les commentaires qu'elle peut faire au niveau des peines qui seront prononcées. Mais de toute façon, les gens qui ont assisté au procès, où il y avait un compte-rendu tous les jours sur Internet de la part de militants, ils ne se font aucune illusion, puisque de toute façon, comme le premier procès, tout a été à charge. À signaler, je le répète, au niveau des gens qui sont condamnés, là, les 6 qui passent en appel, qui seront donc condamnés, il y a vraiment, quasiment, on peut dire, aucune preuve sur eux, pour eux. C'est-à-dire que c'était eux parmi d'autres, donc on a pris eux comme ça.
Les titres noirs, les...
je crois qu'on va parler du social maintenant. Il y a Paru Vendu qui est en train de disparaître dans notre région.
Oui, alors on va revenir un peu sur... parce que Paru Vendu, c'est une histoire qui au départ est un peu... qui est beaucoup rémoise. Alors, Paru Vendu, c'était un journal d'annonces, de petites annonces, entre autres. C'était un journal qui ramassait pas mal de pubs. Donc, pour se faire une petite idée, le premier journal de petites annonces est paru à Grenoble dans 1968. C'était le pionnier, mais les pionniers de cette presse gratuite au niveau pognon, elles sont à Reims avec des journaux qui vont naître dans les années 76, 78, 79 sur Reims, avec un premier journal qui s'appelle Atou Magazine. Un deuxième qui s'appelle Canal 51, ça vous rappelle une... en plus nous ça nous rappelle des souvenirs puisque Canal 51 avait fait un reportage à l'époque sur Radio Manivelle du temps où les radios étaient interdites.
Oui, on avait joué au clandestin ce jour-là.
Voilà. Et puis il y avait un troisième journal qui s'appelait Reims Magazine qui est né dans la foulée des deux autres. Alors très rapidement, il va y avoir fusion entre deux titres, Atou Magazine et Atou et Reims Magazine. Voilà. Alors moi je me souviens à l'époque d'avoir assisté à un débat à la Maison de la Culture de Reims où il y avait un journaliste qui était venu faire une intervention par rapport à la presse gratuite et il l'avait fait quand il était venu sur Reims. Ce qui l'avait choqué, c'était la quantité de publicité qu'il y avait dans ces journaux qui rapportaient apparemment énormément de fric. À l'époque, c'était très épais comme canard. Il y avait beaucoup de petites annonces, mais il y avait aussi, surtout, beaucoup de pubs pour les entreprises du secteur. Alors, c'est le fait que ce soit deux canards qui apparemment soient très riches à aiguiser l'appétit de groupes qui vont récupérer ces canards. Alors le premier qui tombe dans l'escarcelle, alors à l'époque c'était Canal 51, qui va tomber dans l'escarcelle d'un groupe qui s'appelle à l'époque Comareg. Alors c'était détenu par l'agence Havas. Voilà. Le deuxième atout, lui, va tomber dans les années 2000 dans le giron d'une branche du groupe Hersant. Voilà. Et puis rapidement, il va y avoir le groupe Hersant qui va racheter Comareg pour ne garder qu'un seul nom, et toutes les revues qui existaient vont apparaître sous le sigle Paru Vendu. Alors ce qu'il faut savoir, c'était un gros groupe national. Il en existe plusieurs dans les journaux gratuits. La plupart sont effectivement entre la main de la presse. La grande presse. Actuellement, le plus gros, celui qui a bien réussi en continuant à sortir des journaux et surtout en utilisant le net, c'est le groupe Ouest France. Voilà. Et donc, petit à petit, vu que apparemment le groupe Hersant n'a pas su prendre le bon chemin et investir sur clairement sur Internet, il va se casser la gueule. Il y a eu un premier plan de licenciement en début 2011 où il y a déjà 800 ou 900 personnes qui ont été mis dehors. Et puis ils ont mis l'affaire en justice. Donc le groupe paru vendu comme un règle, ainsi que les imprimeries qui vont avec, puisqu'il y avait 4 imprimeries qui fonctionnaient avec ce groupe, qui s'appelle Hebdoprint. Le groupe Comareg et les imprimeries Hebdoprint ont été liquidés, ce qui a entraîné 1650 licenciements, enfin là, personnes sur le carreau dans toute la France, dont 150 sur Reims, 100 à l'imprimerie Hebdoprint qui atteint que, et 50 qui dépendaient directement du groupe Comareg. Il y en a, je sais plus combien, 90 à côté de Troyes, où c'était le centre d'appel du groupe paru vendu. Il y a eu à Lan, dans le coin, voilà. Donc le groupe Persan se débarrasse en fait d'une branche qu'il prend pourrie. Pour l'instant, il y a eu aucun repreneur. C'est pas sûr qu'il n'y en ait pas dans les jours qui viennent, mais bon, il y a des imprimeries à faire fonctionner, il y a des titres, il y a un titre, il y a un site internet à racheter, je pense qu'il y en a. Alors, tout ça intervient dans une restructuration du groupe Persan Média lui-même, puisqu'apparemment, le groupe Persan Média, qui compte un certain nombre, en France, un certain nombre de titres tels que l'Union, l'Ardennais, l'Est éclair, Libération Champagne, l'Aisne Nouvelle dans le coin, Nice Matin, Var Matin, Le Provençal, Paris Normandie, est en train, donc plus, puisqu'au départ le groupe Persan Média, ça s'appelait France Antilles. Et donc il y a des journaux dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, enfin dans toutes les îles qui font partie encore de la France, nos colonies maintenant qu'on appelle département, voilà. Et donc il est en train de vendre apparemment tous ses titres sauf Paris-Normandie, puisque Paris-Normandie n'est pas en bonne santé, donc il a du mal à le vendre et il faut remettre en bonne santé financière avant d'être vendu. Donc il serait vendu à un groupe belge qui s'appelle le groupe Rossel, qui est déjà qui a déjà des titres en France tels que La Voix du Nord, etc. Apparemment ce qu'il y a, c'est qu'il y a une ardoise donc auprès des banques de 200 millions, et que avant de vendre, l'État français aiderait Persan à négocier avec les banques le fait qu'elles cèdent la moitié de cette dette, donc ce qui ferait 100 millions d'euros quand même, que les banques lâcheraient dans l'histoire. Donc c'est une histoire à suivre, parce que si il y a restructuration au niveau du groupe et donc le rachat, à mon avis il va y avoir aussi une suite sociale à ce regroupement, et je pense qu'on reviendra plus tard là-dessus, mais je pense que ça sera bientôt qu'on saura exactement quand. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si Persan lâche ses titres en France, il a investi, maintenant Philippe Persan vit en Suisse et a racheté énormément de titres de la presse suisse.
Ouais. Voilà. Est-ce que tu as suivi l'affaire de François? Parce que là, bon.
François, c'est autre chose. François, c'est un vieux canard qui a été racheté par un groupe russe nommé par. Donc, dont le directeur se dit russe, se dit partisan de Marine Le Pen, ouais, mais qui est en pleine déliquescence, qui va, à mon avis, se casser aussi la gueule. Pour l'instant, ils misent sur un journal uniquement sur Internet, mais bon, je ne sais pas ce que ça va donner, quoi.
Ouais. Est-ce que tu as des informations sur ceux qui fonctionnent bien? Au niveau 20 minutes, par exemple, c'est un truc qui fonctionne relativement bien. Ils ont un site internet, d'ailleurs, intéressant.
Intéressant,
parce
oui,
qu'ils
oui,
sortent des trucs assez incroyables, de contestation de l'ordre établi. Hein. C'est ainsi que, par exemple, tout à l'heure, on parlait des centres de rétention. Moi, j'ai vu un article qui était repris d'Andy Media. Mmh. Andy Media, un truc alternatif, donc, concernant justement les comptes rendus de ce procès d'appel qui était repris par 20 minutes. Bon, c'est quand même assez étonnant, mais n'empêche que, bon...
Non, là-dessus, je connais pas très bien la presse gratuite. Ça fait partie de la presse
d'information gratuite,
donc avec des petits articles en général.
Petits articles.
Mais il y a des fois, il y a des enquêtes très sérieuses dedans. Il y a des plus grands articles. Là, je connais pas, puisque bon, ce genre de presse était réservé aux grandes villes. Nous, mis à part comme gratuit l'hebdo du vendredi, on n'avait rien. Et 20 minutes vient de faire son apparition sur Reims. Donc, je vais peut-être me pencher un peu plus sur ces trucs de journaux gratuits, savoir un peu comment ils fonctionnent. Je sais qu'ils fonctionnent beaucoup avec la pub, mais bon, à part ça, je peux pas t'en dire plus.
Ouais. À part ça, bon, je crois qu'aussi, il y a quand même une sacrée évolution au niveau de la presse. Hein. Je pense que si vous voulez avoir des informations aujourd'hui qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est pas avec la presse écrite qui existe de Libération au Monde, en passant bien évidemment par le Figaro et d'autres. D'ailleurs, dans le Figaro, de temps en temps, il y a des articles intéressants. Hein.
Dans la presse de droite, on arrive
à trouver des trucs intéressants, voilà. Plus que dans le Monde d'ailleurs, bien souvent. Et on s'aperçoit que bien finalement, au niveau de la presse, quand on veut avoir un dossier, etc., c'est par l'internet qu'on l'a, en particulier rue 89, quelquefois. Mediapart, c'est payant. Ouais, c'est bon. Donc voilà quoi. Donc on en est là. Et concernant la radio, alors je sais pas, j'écoute pas trop les radios nationales. Je sais pas ce que ça donne à France Inter aujourd'hui. S'il y a effectivement de l'information, France Info c'est l'horreur. Hein, ça devient de plus en plus.
Non, France Inter font des magazines qui sont très intéressants. Ils creusent des sujets.
D'accord.
Le samedi matin, il y a tout. Les samedis matin, non, c'est le dimanche matin, il y a un magazine qui fait 52-53 minutes, qui est sur des sujets qui sont très fouillés et qui sont très intéressants.
D'accord. Et puis on trouve aussi quelques petites choses intéressantes de temps en temps sur France Culture aussi, quand même.
Hein. Ouais, sur France Culture, oui, c'est vrai, j'oubliais. Ouais. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, à moins qu'on ait encore des choses à dire. Si, alors bon, si. On a notre journal qui est sorti, numéro de novembre, il est sorti déjà depuis une semaine, la semaine dernière, je vous en avais pas parlé. Eh bien, le numéro de novembre est sorti, donc 32 pages, 3 €, mais vous pouvez l'avoir gratuitement en nous écrivant ou en passant un mail tout simplement au C Libertaire et on vous enverra ce numéro de novembre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a entre autres la lutte antinucléaire qui continue. Il y a un compte-rendu donc de la manifestation qui a eu lieu à Rennes, et puis il y a le projet de Valogne dont on vous parlera normalement la semaine prochaine, vu qu'il y a un castor qui va partir. Un castor, c'est un train de déchets qui va partir donc de La Hague pour l'Allemagne, et je crois qu'il y a des mobilisations pour faire en sorte que ce train mette énormément de temps, et ça coûte énormément de fric aux nucléocrates. Alors voilà, il y a un autre article aussi qui concerne Mayotte. La situation à Mayotte, maintenant, il semblerait que ça évolue, en ce sens qu'il y a eu un accord qui a été passé, mais comme un peu dans la Guadeloupe il y a quelques années, les gens qui ont lutté pendant si longtemps à Mayotte restent tout à fait vigilants par rapport aux acquis sur le papier. Il voudrait que ça se transforme bien réellement sur le terrain. Et notre article sur Mayotte est intéressant parce que c'est un article fait par une personne qui habite là-bas et qui nous donne un petit peu un compte-rendu de ce qui se passe avec une analyse de fond par rapport à ce conflit. Ensuite, il y a un autre article qui peut vous intéresser concernant la fameuse crise de la finance. D'ailleurs, dans le titre, c'est mis la crise de la finance, point d'interrogation. Donc c'est intéressant. Il y a d'autres articles, en particulier sur le colonialisme, avec un article qui concerne la Francafrique, avec un article donc de quelqu'un qui nous décrit un petit peu les liens de la France avec l'Afrique aujourd'hui. Alors il y a bien d'autres articles, dont la rubrique d'ailleurs Big Brother, dont souvent on fait référence à cette émission.
Alors, simplement ce que je voulais rajouter, c'est que tout à l'heure, quand on vous parle du social, en particulier du social dans la région, vous pouvez trouver tout ce qui se passe, entre autres, au niveau social, mais pas seulement au niveau environnement, etc., tout ce qui peut y avoir comme information intéressante sur la région, sur le site lechatnoir51.fr, et donc vous trouverez énormément de choses, dont nos émissions de radio, hein, qui sont mises en ligne, ce soir va être mis en ligne, et puis d'autres choses, pareil, voilà.
Allez, bonsoir.
Nous unissons les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective.